RFI. Le Monde à midi.
Le Kremlin s'est dit satisfait de son dialogue avec les États-Unis. Kiev a évoqué de bonnes mesures. La première réaction après l'annonce donc d'un accord trouvé entre la Russie et l'Ukraine sur une trêve en mer Noire, accord annoncé après des discussions de part et d'autre avec Washington. Chacun des deux pays a, d'après la Maison-Blanche, accepté d'assurer la sécurité de la navigation, de ne plus recourir à la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux pour des objectifs militaires dans cette zone. Bonjour Florent Parmentier.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, secrétaire général du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Est-ce qu'il y a un gagnant dans cet accord annoncé, selon vous, entre l'Ukraine et la Russie ?
Alors, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la dynamique du conflit depuis 2022 pour comprendre en fait qui est le gagnant de cet accord. La dynamique du conflit, c'est en 2022, quand la guerre éclate le 24 février, une domination russe qui, en quelque sorte, ne s'est pas vérifiée. Domination russe parce qu'en termes de navires, de nombre de flottes disponibles, il n'y a pas photo, entre guillemets, entre la Russie et l'Ukraine. Mais l'Ukraine a su, à travers des drones, à travers l'utilisation d'un certain nombre de missiles depuis la terre vers la mer, a su, en quelque sorte, rendre cet espace indésirable pour la flotte de la mer Noire russe. Indésirable, impraticable, et donc la Russie, pratiquement, eh bien, pouvait démarrer la guerre avec un sentiment de supériorité écrasante sur le plan maritime. Mais dans la pratique, en fait, cette supériorité n'a pas été pu être utile pour la guerre. Du coup, ce qu'on peut en retirer, c'est tout simplement l'idée selon laquelle eh bien, la Russie a plutôt été en quelque sorte défavorisée sur le plan maritime. En tout cas, sa position relative par rapport à l'Ukraine s'est amenuisée. Le fait de geler ça, finalement, n'est pas un problème pour Moscou. Cela permet aussi de montrer du côté ukrainien qu'on est eh bien, disposé à faire des accords si ce que proposent les États-Unis peut être intéressant.
L'autre chose qui pèse peut-être un peu en faveur de Moscou, c'est que la Russie a conditionné la mise en œuvre de cet accord à la levée des sanctions occidentales sur les exportations agricoles russes. Sauf que ça dépend aussi, entre autres, des Européens. Est-ce que déjà ça veut dire que cet accord n'est finalement qu'un effet d'annonce ? Parce que comment concrètement est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit mis en place ?
Les dirigeants américains essaient aujourd'hui en quelque sorte de forcer la main aux Européens de manière à s'occuper de cette levée de sanctions. Il faut savoir que ce sont les Européens qui portent l'essentiel du coût des sanctions jusqu'à présent. Et donc, il y a des sanctions à la fois sur tout un tas de secteurs. L'idée, il faut s'en souvenir, c'est que la mer Noire a été le lieu d'un des premiers accords entre la Russie et l'Ukraine dans cette guerre. En juillet 2022, on a eu un accord sur la libre circulation de la flotte de la mer, sur la mer Noire. Quel était l'enjeu ? C'était tout simplement de permettre une exportation plus simple des navires céréaliers, des exportations de céréales depuis l'Ukraine. Et depuis cela, en quelque sorte, il y a eu depuis un certain nombre de difficultés. On ne peut pas dire que l'accord initié par les États-Unis est caduc à ce stade. Cela dépendra assez naturellement, finalement, d'autres acteurs, des Européens sans doute, mais aussi des clients finaux. Il faut voir que la production agricole russe comme ukrainienne, l'essentiel de la production agricole ne passait pas tous vers les marchés européens, mais allait vers d'autres marchés émergents. Autrement dit, les États-Unis vont pouvoir s'appuyer peut-être sur d'autres États que les Européens pour essayer de montrer en quelque sorte l'intérêt de cet accord.
Mais concernant les Européens, est-ce qu'ils auraient, eux, des intérêts à ce que cet accord finalement soit mis en place ?
Si l'on considère que les Européens sont le territoire le plus proche du conflit, la question n'est pas en fait d'avoir un pouvoir aux États-Unis qui dit vouloir aller vers la paix. Le problème peut être éventuellement que pour aller vers la paix, et quitte à le faire dans un horizon raisonnable, c'est-à-dire pour lequel les États-Unis pourraient sacrifier en quelque sorte un intérêt de court terme, faire la paix le plus rapidement possible, contre des intérêts de long terme des Ukrainiens et des Européens, alors là, on peut avoir effectivement une forme de difficulté. Jusqu'à présent, voilà, on a encore du mal à voir si cet accord sera respecté, parce qu'il faut mettre, il ne suffit pas de tomber d'accord, il faut aussi faire en sorte que les accords signés puissent être exécutés. Et une fois qu'ils ont été exécutés, il faudra voir effectivement si c'est un premier pas, si c'est un premier pas qui est suivi d'autres accords. qui peuvent être sectorielles là aussi, de manière à arriver vers un état final recherché qui serait une fin des combats. En tout cas, c'est l'objectif affiché des États-Unis.
C'est l'objectif affiché, effectivement, mais du coup, est-ce que pour le moment, on peut y voir une sorte d'aveu d'échec, en tout cas jusqu'à présent, de la part de Washington, qui n'a pas réussi justement à obtenir pour l'instant ce cessez-le-feu total, Florent Parmentier?
Je pense qu'il y a deux choses. Les élites politiques américaines aujourd'hui présentes à Washington ont pour principal objectif de présenter plutôt une succession de succès, à savoir faire trois succès sectoriels plutôt qu'un cessez-le-feu, c'est finalement avoir trois succès en quelque sorte. Et je pense que de ce point de vue-là, si vous voulez, la Russie l'a très bien compris. Autrement dit, en termes de temporalité, les Américains veulent des accords rapides, quitte à ce qu'ils soient sectoriels. Du côté de la Russie, on dit en substance, nous n'avons pas d'urgence précise à conclure un accord. Et si on doit conclure un accord de cessez-le-feu, eh bien, il faudra s'assurer que l'ensemble de nos conditions soient bien concernées. Il n'y a pas de volonté de transiger par rapport aux objectifs affichés de la part de la Russie. Ça induit des positions de négociation très différentes. D'ailleurs, si on regarde bien, les États-Unis sont dans une option carotte-bâton. La carotte, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre fin aux sanctions. Le bâton, eh bien, si vous ne faites pas ça, dans ce cas, vous pourriez avoir vous aussi bien Russie qu'Ukraine, des difficultés. Tandis que la Russie peut se contenter d'être plus ambiguë par rapport à sa posture de négociation. Autrement dit, entre Russes et Américains, la temporalité, la posture ne sont pas les mêmes et la manière de considérer à la fois la mise en œuvre de ces décisions et les alliances qui seront nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions, eh bien, sont différentes.
Et pendant ce temps,
Pour le moment, en tout
effectivement,
cas.
les combats se poursuivent. Merci beaucoup, Florent Parmentier, docteur en sciences politiques, secrétaire général du CVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous.